Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nous allons maintenant aborder un sujet essentiel, Jules Dekis, un sujet brûlant, l'égalité femmes-hommes. Au-delà de la question de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, on va s'intéresser à la place des femmes dans notre société.
Et notamment dans le monde du travail et de l'entreprise, où les inégalités sont absolument flagrantes aujourd'hui. D'abord, les écarts de salaire. Pour un même temps de travail, les femmes gagnent en moyenne en France 15% de moins que les hommes. Et comme les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes, 28% chez les femmes, 8% seulement des hommes à temps partiel, eh bien cet écart augmente encore plus largement. Et en plus, on trouve moins de femmes à des postes de responsabilité. Et donc, pour faire changer les choses sur ce sujet-là, la France met en place une politique de quotas pour que les femmes aient accès, autant que les hommes, à des postes à responsabilité. Depuis 10 ans, il y a une loi qui fixe à 40% minimum le nombre de femmes dans les conseils d'administration. C'est l'instance suprême pour administrer une entreprise. Et l'idée à l'époque, c'était que s'il y avait des femmes à des postes à responsabilité dans les conseils d'administration, eh bien ça ruisselle en quelque sorte et qu'on nomme des femmes à des postes de direction. Mais là, ça n'a pas marché. On trouve aujourd'hui plus de 40% de femmes dans les conseils d'administration, mais elles n'occupent que 20% des postes de direction. Et là, il y a donc une nouvelle loi qui vient d'être votée tout récemment au Parlement pour briser ce plafond de verre, qu'il y ait au moins 30% de femmes à des postes de direction en 2027, 40% en 2030. C'est une loi proposée par la députée LREM de l'Essonne, Marie-Pierre Rixin, qu'on écoute.
Finalement, on se rend compte que sans les quotas, nous n'y arrivons pas. Il y a 10 ans, lors du vote de la loi Copé-Zimmermann, les entreprises s'étaient engagées à faire en sorte que ça ruisselle sur les membres des instances dirigeantes. Cela n'est pas advenu, donc force est de constater que lorsque la loi n'instaure pas des mesures coercitives, malheureusement, rien ne progresse.
Que risquent les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle loi ?
Les entreprises ont donc 10 ans pour se mettre en conformité. D'abord, elles vont devoir, d'ici 2 ans, publier sur le site du ministère du Travail les données genrées. Ensuite, elles auront 3 ans pour atteindre 30%. Et puis, en effet, dans 8 ans, 40%. Et elles auront 2 ans pour se mettre en conformité. Puis, si véritablement ça n'était pas le cas, elles pourront se voir infliger une amende qui représente 1% du chiffre d'affaires et de faire en sorte que cela advienne.
Donc Marie-Pierre Rixin, députée LREM de l'Essonne sur France Info, à l'origine de cette loi, donc en plusieurs étapes, dans les 2 premières années déjà, que les entreprises soient obligées de publier tout ce qu'il en est des questions de genre au sein de leur organisation, et puis ensuite par palier, donc 30% de femmes en 2027, 40% de femmes à des postes de direction quelques années plus tard, à partir de 2030.
Alors, que feriez-vous pour réduire les inégalités hommes-femmes ? Encore un sujet qui, c'est intéressant, comme le racisme, on en parle depuis des années, on parle des solutions depuis des années, on a l'impression que rien ne se passe. Charles Despy.
Je vais me permettre de prendre la parole,
oui,
puisque je vais faire juste un copier-coller de ce que je viens de dire. Encore une fois, la discrimination est profondément humaine. Et encore une fois, on va dire aux gens, arrêtez d'être des gros porcs, arrêtez de prédater les stagiaires, arrêtez de mettre des plafonds d'air aux femmes, etc., etc. Ça ne marche pas. Ce que j'ai entendu ici de cette députée LREM, il a été porté par une députée des Républicains, il a été porté par l'EPS, il a été porté par tous les gouvernements. Pour quel effet ? Voilà. Et encore une fois, je suis contre la discrimination positive. Je suis pour l'excellence la plus brute et la plus neutre possible. La discrimination positive, c'est forcer des personnes à des postes et ces personnes ensuite, elles-mêmes, portent le poids du quota sur leurs épaules, sont regardées de travers, ne méritent pas, le vivent mal, etc., etc. Donc on sait que la discrimination positive est une solution rustine pour essayer encore une fois de contrer un problème profondément humain. Et je ne vais pas me répéter sur ma solution. Vous le savez très bien, ma solution n'est peut-être pas poétique. L'impartialité de l'algorithme fera qu'encore une fois, les promotions se feront sur des performances, les embauches se feront sur des CV, le tout de manière anonyme.
Merci. Varcel, la discrimination homme-femme.
Écoutez, alors bien sûr, on peut faire rêver avec des solutions fantasmagoriques, parler d'un algorithme qui par ailleurs est une boîte noire que personne ne sait exactement comment il fonctionne, et dire que tout ça va résoudre tous nos problèmes. Un peu comme une lampe, vous savez, qu'on frotterait et puis il y a un bon génie qui en sort. Alors là, ce serait le bon génie de l'égalité. Moi, je vais vous parler de quelque chose de très concret, de très concret. Est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'écarts de salaire à l'hôpital entre les médecins hommes et femmes? Est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'écarts de salaire dans l'éducation nationale entre les professeurs hommes et les professeurs femmes? Est-ce que vous avez entendu parler d'écarts de salaire à l'université entre les professeurs hommes et les professeurs femmes?
Jules de Kiss, y a-t-il dans la fonction publique des écarts de salaire entre hommes et femmes?
Oui, il y a des, mais c'est beaucoup plus réduit que dans le privé.
Donc ça existe. J'en ai entendu.
Elle existe.
C'est
bien
de 8%, je crois, mais bon, mais ça sera un chiffre à vérifier.
C'est beaucoup plus réduit. Parce que le premier problème, c'est un biais productif. Quel est le problème? C'est que les patrons se disent que si on fait monter une femme trop haut dans un poste à responsabilité, le jour où elle va prendre son congé maternité, eh bien on va avoir une chute de productivité. Et c'est ce qui fait que, hélas, et je le dis en le déplorant, on a une gestion totalement misogyne des carrières. Donc le problème est simple, encore une fois, faisons confiance au commun. Quand les choses, l'économie, les systèmes productifs sont gérés en commun, ils fonctionnent mieux. Bien sûr, on a toujours des biais résiduels et bien sûr, il y a toujours une marge de progression et on va s'y attacher. Mais mettons l'économie en commun et là, vous allez voir que vous n'aurez plus le fait du prince, monsieur de Spi. Alors le prince, c'est pas votre royauté, le prince, c'est le chef d'entreprise qui décide qu'une telle est moins bien faite pour le travail parce qu'elle risque d'avoir un enfant qu'un tel qui lui va travailler toute sa vie. Faisons confiance à la gestion en commun des entreprises et de toute l'économie. Encore une fois, c'est la seule solution conséquente qui soit.
Bien compris. On va passer d'abord par Véronique. Véronique, je vous écoute sur l'inégalité homme-femme.
Je crois que, encore une fois, c'est très utile les lois, mais ce n'est pas les lois qui vont tout changer. Et moi, ce que je propose, ce dont on a besoin, c'est de modèles de femmes puissantes, des femmes qui réussissent. On a Christine Lagarde. Moi, je vois une femme très puissante aussi à la tête d'Engie. J'en vois à la tête de L'Oréal. Les femmes savent faire. Elles savent faire, elles savent créer de la richesse. Et donc, je propose de lancer le programme France Femmes qui sera créé en collaboration avec nos partenaires du MEDEF et de la FEP qui ont, eux, compris les vrais enjeux. Et donc, nous proposons que sur les grosses entreprises, pour avoir des femmes inspirantes, avoir des modèles pour nos plus jeunes, pour nos filles, de créer un homme, une femme. Donc, un mandat fait par un homme et la soie suivante, c'est par une femme. Ça, vous voyez, ça, c'est du concret.
Est-ce qu'il y aura un numéro vert pour parler à une femme inspirante?
Après, moi, je vais vous dire quelque chose. Je dois avouer que je suis très choquée d'avoir ce débat avec un candidat qui, soi-disant, a la sympathie des Français, mais qui a usé du droit de cuissage, disons-le clairement, sur sa collaboratrice et qui a même usé de violence. Et voilà, moi, je vais vous dire franchement, alors, avoir ce type de débat
violence,
avec ce genre de personnage autour...
Alors, Didier, vous pouvez vous exprimer dans une seconde. J'ai une petite question. Oui.
Excusez-moi.
Non, vous allez pouvoir vous défendre.
Il serait temps de vous expliquer.
Mais une seconde, vous avez résolu le problème de la parité avec un homme et une femme, mais on parlait aussi d'inégalité salariale. Je n'ai pas entendu de solution. Est-ce que c'est un sujet pour vous?
C'est un sujet. Après, on voit bien que ce n'est pas la réglementation, malheureusement, qui règle ce sujet. Et c'est en ayant des femmes compétentes, de plus en plus souvent, aux têtes des grands groupes et inspirantes, qu'on verra leur valeur ajoutée dans la tech, dans la croissance verte et aussi dans le domaine du care.
Donc, par le modèle. Didier, à vous la parole, enfin.
Oui, pour répondre, enfin, pour débunker un tout petit peu cette histoire avec ma secrétaire de parti, sachez que il est vrai, je demande aux Français de se faire violence. Je pratique du coup
vous moi-même. Vous avez violence vous-même.
Je pratique du coup moi-même la violence corporelle et j'ai demandé à ma secrétaire de me flageller, il est vrai, pour pouvoir supporter la violence et les efforts
désolé,
que je demande aux Français.
Je suis désolé Didier, ce n'est pas le sujet du soir.
Très bien.
Réduire les inégalités de salaire
entre femmes. Je suis évidemment pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et je suis pour la taxation des entreprises qui ne la respectent pas. Il faut que ça coûte plus cher aux entreprises, largement plus cher, de ne pas respecter ces égalités salariales que de mettre les hommes et les femmes aux mêmes égalités salariales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe en France? On observe que seules les classes moyennes prennent leur congé paternité en totalité. Les classes, malheureusement, les plus précaires ont peur de prendre leur congé paternité parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi, elles ont peur de perdre leur argent. Les classes aisées ont peur de manquer à leur fausse responsabilité. Tout le monde doit prendre. Lorsqu'il y a un enfant dans un couple, ça n'est pas de la responsabilité de la mère, c'est de la responsabilité du couple. Il doit y avoir une égalité entre le congé maternité et le congé paternité, ce qui débunkera complètement les inégalités d'idées entre les salaires, puisque visiblement il est question d'enfants et c'est
pensez,
pour ça que les femmes...
Vous pensez juste un congé maternité, vous allez rétablir l'équilibre de la France, monsieur.
Si, mais enfin, si, mais s'il vous plaît. Si dans la tête, s'il enfin, des entrepreneurs et des patrons, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme au travail, au niveau de l'accès à la paternité et à la maternité,
Vert, enfin, c'est grave.
Ensuite, je mettrai l'accent sur l'éducation, évidemment, pour apprendre, évidemment, à nos femmes qui sont actuellement dans nos écoles, qu'elles peuvent avoir accès tout autant au même travail que les hommes et au droit au même salaire que les hommes. Une fois que ce sera rentré dans la tête des gens, nos nouvelles générations n'auront même plus besoin de se poser de questions.
Enfin, vous pensez que
il n'y a pas de naïveté, il s'agit d'agir.
Vous pensez vraiment qu'en disant « toi aussi tu auras le droit, ça va se passer comme ça », tout le monde part avec les meilleures intentions, il faut être un petit peu pragmatique, je suis pragmatique. Vous savez très bien que ce que vous proposez, ce n'est absolument rien d'autre que de remettre une couche de rustine et de vernis sur un problème qui ne changera pas.
Il n'y a pas de rustine.
Mais c'est une politique qui existe depuis longtemps.
L'agissement est tout de suite. Les entreprises seront obligées de réduire les écarts salariels tant elles seront taxées si elles ne sont pas.
J'ai bien entendu. Véronique, vous voulez réagir? Non, c'est bon.
Non, j'aimerais quand même avoir plus de précision sur. Écoutez,
le fait que je me fasse souhaiter.
Oui, tout à fait. Exactement.
Je pense que ce n'est pas l'objet du débat.
Si vous souhaitez.
Mais j'en demande beaucoup. J'en demande beaucoup aux Français.
De pirouette. C'est quand même important la question des relations entre. Au sein de la hiérarchie, écoutez, dans une entreprise, dans une organisation. Et excusez-moi, vous n'avez pas clarifié votre propos.
Le fait même que vous ayez des relations sexuelles avec une subordonnée raconte déjà un vrai problème.
Écoutez, la vérité, c'est que j'ai essayé de me connecter sur France Connect mes fesses et ça nous a tellement déprimés qu'on a décidé, évidemment, de faire l'amour.
Merci pour ce débat. Ce sera le débat de la fin. On termine sur le mot amour. Ça me fait très plaisir. Voilà. J'espère que la régie va envoyer le sondage, puisque dans le chat, on dit mais où est le sondage, il va arriver, ne vous inquiétez pas, vérifiez bien le chat. On va faire une dernière volée d'aventure, on est un petit peu short sur le timing, mais ne vous inquiétez pas, on va alors c'est des petites aventures qui sont un petit peu imposées, vous allez voir, mais elles sont, à part pour le cas de Véronique, toutes les conséquences de vos choix antérieurs. Excusez-moi,
favoritisme, non. Après JDC, JDR, mais voilà,
non, excusez-moi, ce sera plutôt pour Ken.
Favoritisme tout de même,
Ken,
quand même.
Dis,
qu'est-ce que j'ai fait encore?
On va faire une aventure qui s'appelle pour toi. Il s'appelle Vieux en souffrance.
Tu auras Karine Le Marchand ou pas?
Peut-être. C'est un scandale national, Ken. Didier. Un livre, puis une série de reportages racontent les conditions de vie déplorables dans les grands groupes de maisons de retraite privatisées. Culture du rendement, maltraitance. Le gouvernement Macron déclare vouloir créer une commission spéciale de surveillance, mais est-ce assez? Évidemment, vous êtes, Didier, avec d'autres. Représentants, porte-parole de parti autour d'une table. Eux, ils ont un discours qui n'a pas la force de conviction de vos adversaires. Et vous êtes à BFM TV et une personne appelle et fait son témoignage. Je vous écoute, la régie.
Bonjour, je vous appelle parce que j'ai confiance en vous et je pense que vous pouvez gagner cette présidentielle. J'ai perdu ma maman il y a une semaine dans un EHPAD et je crois que c'est à cause des mauvais traitements. J'ai lu un livre qui est sorti sur la privatisation des EHPAD et la culture du rendement et j'ai peur que d'autres Français comme moi perdent leur maman dans des conditions indignes. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour ça?
Vous, président, est-ce que vous faites quelque chose pour la situation des EHPAD?
Écoutez, je ne connais pas exactement la situation dans laquelle maman de cette personne est décédée et je le déplore réellement. Le programme quant aux retraites est évidemment très difficile à mener tant les retraites de nos Français ont été détruites par des années de gouvernance. Il va falloir retravailler très fort là-dessus. Et évidemment, pour ça, ça passe par la meilleure santé de nos retraités. Et pour que nos retraités soient en meilleure santé, il faut un monde plus propre, un monde plus sûr, un monde plus sportif aussi, afin d'augmenter notre espérance de vie. Toutes les études le prouvent. Une activité physique répétée au cours de nos journées prolonge notre espérance de vie, réduit nos propositions et nos probabilités de cancer. C'est vers ça qu'il faut mener. Pour ce qui est des situations des EHPAD, je me pencherai évidemment plus en détail sur ce sujet, en particulier si je suis président, mais toutes maltraitance est évidemment absolument inenvisageable envers les personnes âgées comme envers n'importe qui.
Alors je considère que ta réponse est décalée par rapport à la situation des maisons de retraite. On va faire un sondage de type déclaration choc, puisqu'il est à la télévision. Et on va lancer les dés, s'il vous plaît, la régie. On va enlever un point.
Ah. Alors que France Vieux.
C'est trop tard, France les vieux. Retraite. Dans mon programme, les vieux vont tous crever.
C'est un 5, donc c'est un 4.
Oh, mais quel moulken.
Écoute, je n'y suis pour rien. Je suis très fort.
On voit bien que les idées de Didier Vert marquent l'opinion. C'est l'analyse d'un sondeur. Les dernières déclarations du candidat à la présidentielle entraînent beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux.
Et finalement, malgré tout, les gens ont apprécié ton intervention. En tout cas, tu es le seul à t'être prononcé. Donc, tu gagnes une voix. C'est une petite aventure.
Des retraités,
on va revenir
sérieux,
sur tout ce qui vous est arrivé pendant cette élection présidentielle. Et après, nous ferons le dernier débat qui aura pour thème brûlant
l'actualité internationale.
L'actualité internationale récente. Didier, tu avais parlé d'accueillir à tout prix les immigrés ukrainiens au tout début de ta campagne. Est-ce que tu t'en souviens? Sans donner quand même de propositions concrètes. Didier, es-tu avec nous?
Je suis avec vous, excusez-moi. Je recevais mes prochains résultats et contrairement à ce que disait Solette, je suis très en avance dans les sondages.
Donc, en deux mots, il y a une association. Je sais que le sondage est en cours. Je vous appellerai pour le sondage du premier débat qu'on a eu. Il y a une association pro-migrants qui a été sensible à ton intervention et il dit nous vous proposons de rajouter dans votre programme d'enlever la réforme anti-squatteur. Vous voyez ce que c'est?
Ouais.
Est-ce que ça vous dit?
Alors, ça ne me dit pas. Non.
Vous êtes contre?
Ouais.
Donc, tu vas gagner un retraité et tu vas me donner un bobo. Ensuite, excusez-moi, on va revenir sur tout. Véronique.
Oui.
Ton discours positif sur l'autonomie de la Corse a séduit beaucoup de régions. Imagine. Et les bonnets rouges, les bretons indépendants t'ont contacté.
Bien sûr, j'ai compris.
Et il te dit, Véronique, est-ce que vous seriez ouvert à une indépendance de la Bretagne?
Alors, je suis... Je propose de lancer un grand débat où tous les sujets seront débattus.
Donc ça gagne du temps.
Un référendum sur l'autonomie de la Bretagne?
Non, pas un référendum. Pourquoi tout de suite un référendum? Non, je crois qu'il faut écouter, débattre, et notamment sur la question des monnaies rouges, qui, je vous le rappelle, était liée à quoi déjà?
L'essence.
À la taxation, à trop de taxes. Et je crois que c'est ce débat-là aussi qu'il faut ouvrir avec eux.
Alors, tu gagnes quand même pour la considération des monnaies rouges une classe moyenne.
Le portail écotaxe.
Exactement. Absolument. À cause de Anne de Bretagne. Charles.
Oui.
Tu avais été intervenu dans ce collège, est-ce que tu t'en souviens?
Mais bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et donc,
je crois que le taux de réussite au bac, d'ailleurs, a augmenté.
Alors, il y a un groupe de professeurs, un syndicat de professeurs que je ne vais pas nommer, qui te contacte et ils te disent vous êtes pour une régulation des élèves et des lycées, si on a bien compris, par l'algorithme. L'algorithme, il n'est pas là. Vous avez parlé de 18 mois. Aujourd'hui, c'est plutôt du top-bottom, pour utiliser un langage corporate. On vous propose de faire du bottom-top, c'est-à-dire que les professeurs décident de ce qu'ils font dans les classes. Est-ce que vous seriez d'accord pour cette idée?
Pas du tout.
Pas du tout. Tu me donnes une classe moyenne.
Ah, je n'ai plus de classe moyenne.
Mais tu ne peux pas en perdre. Ensuite...
Ah, j'ai même pas le droit de me justifier, d'accord.
Non, mais c'est des petites aventures rapides.
Ok.
Mais Charles, je continue avec toi. Tu avais traité la problématique de 2 euros le litre, plutôt mal d'ailleurs.
Ouais.
Et en disant, moi, les pauvres, peu me chaud.
Et... Non, j'ai dit que j'étais pauvre moi-même, donc je comprenais mieux les pauvres en étant très riche aujourd'hui.
Voilà. Mais en tout cas.
C'est pas pareil.
Non seulement tu avais perdu des voix parce que tu avais ulcéré plein de gens, mais en plus, tu as des gens... Alors, ton fief, c'est Tours, c'est ça?
Oui.
Tu as des zadistes, les zadistes de l'Ouest, qui sont très en colère contre toi. Ils ont saccagé ton siège.
Quoi?
Est-ce que tu veux réagir à ça?
Mais évidemment.
Alors, tu dis quoi? Tu fais quoi?
Alors, déjà, les zadistes.
Ah, déjà.
Moi, lorsque je serai la main du roi, déjà, les zadistes, ils vont voir flou parce que ça va être très net. Les gens qui viennent saccager...
Tu fais une communication, c'est ça ?
Voilà, les gens qui viennent saccager les biens des autres. En plus, avec des dreadlocks, ce qui déjà de base sera illégal lorsque je serai main du roi.
Avec des pulls qui piquent.
Ouais, avec des pulls qui piquent.
S'il vous plaît.
C'est un scandale.
Cliché.
Ces gens-là, les zadistes, au nom d'une forme de morale, d'une forme de SJW, de wokisme, en fait, font subir aux gens ce qu'ils demandent d'arrêter. C'est vraiment des gens paradoxaux, pour dire les choses poliment, des gens, je pense, un peu perdus pour dire les choses honnêtement. Donc, évidemment, je vais porter plainte contre ces zadistes. Et évidemment, je ferai appel à mes amis présidents de groupes médias pour créer et produire peut-être des reportages qui expliqueront la vérité sur les zadistes.
Écoute, ton discours constamment méprisant ne te vaut pas l'amour de la classe moyenne, mais elle ne t'aime plus déjà. Par contre, tu gagnes un super riche qui, finalement, est nostalgique.
C'est la base.
Encore un voilà énième base, super ouais. riche.
Cher Marcel, souviens-toi, face à des bergers, tu as dit aucun problème pour introduire les loups et protéger les loups.
Tout à fait.
Ça t'a valu l'amour de la Fondation Brigitte Bardot et de l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages.
Tout à fait.
Qui font un communiqué sur Twitter en appelant le candidat en implorant tout le monde à voter pour le candidat, il te surnomme l'ami de la vie.
Attendez, Brigitte Bardot appelle à voter communiste.
Eh ben, en tout cas, elle est très très sensible. Brigitte Bardot, elle dit rien de vaut, enfin hyper touchée. C'est la première fois qu'on a ça. Discours surprenant. Est-ce que l'ami de la vie que vous êtes, on t'interpelle, est-ce que l'ami de la vie que vous êtes est aussi ennemi des chasseurs, ami de la nature et ami du bien-être animal?
Écoutez, ami du bien-être animal, bien entendu, mais vous savez, alors ça, encore comme d'habitude, on jette l'opprobre sur les chasseurs. Bon, nous pourrions en parler à titre personnel, je ne suis pas chasseur moi-même, je ne mange même pas de viande, vous savez. Et justement, moi j'aimerais bien qu'on mette les véritables choses sur la table. Comme d'habitude, le débat public est orienté par des leurres, la chasse, la corrida, ces choses-là sont importantes, mais parlons des vrais problèmes, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, les conditions totalement déplorables dans lesquelles les animaux sont abattus. Comment ça, next?
Mais non, parce que tu es pas l'ami des animaux.
Bah, je suis en train de t'expliquer que le vrai problème est ailleurs.
Ah, on a bien entendu, mais ça les intéresse pas.
Les abattoirs,
un salaire universel pour les animaux, c'est ça, monsieur?
Non, pas du tout, monsieur. Mais comme d'habitude, vous savez,
si nous
nationalisions en effet les industries agroalimentaires qui sont un bien commun, une chose commune, nous n'aurions pas les problèmes que nous voyons dans les abattoirs.
En tout cas, il s'est passé quelque chose, c'est que tu as pu t'exprimer récemment sur les 45 heures par semaine proposées par Macron qui t'avait ulcéré. Et il se trouve que vous êtes en train de parler à un symposium sur le travail. Vous êtes tous les deux là, Charles et toi. Sur ce sujet-là, la discussion revient, vous étiez bien exprimé, monsieur, on vous dit, il y a des gens qui te serrent les mains, camarades. Et il y a une association qui s'appelle Chômeurs des IA. Pourquoi ? Ce sont des juristes, des traducteurs qui disent « moi j'ai perdu mon emploi parce que l'algorithme a volé mon emploi. J'ai suivi une formation, je suis devenu traducteur et aujourd'hui, eh bien, il y a des robots qui font mon travail mieux que moi. » Qu'est-ce que vous proposez, Charles et Marcel ? Alors, Marcel, tu peux commencer.
Bah, alors, c'est très simple. On voit bien ici le problème. Le problème, c'est que nous avons remplacé d'honnêtes travailleurs par, tout simplement, des robots, par de l'automatisation. Alors, moi, je pourrais faire la moitié du chemin et proposer, et d'ailleurs, dans un premier temps, nous allons mettre en place une vigoureuse taxe sur l'automatisation. Ce sera la première chose. Et puis, évidemment, dans un deuxième temps, nous allons simplement nationaliser les entreprises. Mais on voit bien le problème. On voit bien le problème, c'est que de plus en plus de valeur est créée par des robots, par des algorithmes, par des personnes qui ne sont pas humaines. Et du coup, nous avons de plus en plus de chômeurs. Et ce mouvement ne va cesser de s'accélérer. Donc, actons une bonne fois pour toutes qu'il faut nationaliser, collectiviser les moyens de production. Et oui, cela permettra de financer un salaire universel, un salaire à vie. Mais dans un premier temps, commençons déjà par taxer l'automatisation. Ce serait la moindre
chose. La taxe robot de Benoît Hamon. Et vous, Charles ?
La taxe sur l'automatisation.
Monsieur Courret, je vous offre sur un plateau le rêve d'une vie. La France qui se gratte les couilles dans un canapé. Une France qui fait ce qu'elle veut. Une France qui peut se mettre à la céramique. Une France qui peut devenir boulangère. Une France qui peut mettre en place un petit potager.
Vous voilà devenu communiste,
monsieur Desmi. Mais non, mais parce que c'est là où on se rejoint, mais peut-être pas par les mêmes chemins. Voilà. On se rejoint vers une
supériorité. Vous voulez le retour de la royauté, monsieur.
Exactement. Une royauté numérique, c'est-à-dire une royauté neutre. Mais évidemment que, et c'est déjà le cas.
Vous avez parlé de sujet.
C'est déjà le cas. Effectivement, des robots, des automatisations ont remplacé des emplois. D'abord des emplois exécutifs, puis bientôt tous les emplois. Il n'y a pas de tabou là-dessus.
Oui, des chômeurs, des pauvres, qui aujourd'hui crèvent de froid et crèvent de faim.
Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'à un moment, si vous voulez que la France arrête de travailler avec un salaire universel, il faut bien qu'elle s'occupe, il faut bien que des gens fasse tourner le pays pendant que les Français vont faire des brunchs.
Mais personne.
Et je vous offre ça avec mes solutions de technologie.
Je suis très ému de voir l'alliance des fachos et des cocos.
La différence, vous voyez, c'est que Monsieur Spy a eu l'expression qui révèle le fond de sa pensée. Les gens vont, je vous cite, Monsieur, se gratter les couilles.
J'adore me gratter les couilles dans mon loft.
C'est ce qui fait de vous effectivement un super riche qui ne travaillait pas. Vous êtes finalement un indolent. Mais les gens détestent rester inactifs. Quand on a la chance justement d'avoir ce salaire à vie, qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce que vous voulez les gens travailler pour mais ou les pas gens travailler,
vont,
je comprends
les
pas.
Gens non, vont, en fait, dans vont les pas deux rester cas, dans leur
vous avez
hamac.
Apporté des solutions, la taxe robot ou finalement accepter la situation, sachant qu'on va vers moins de travail. Le rouge, c'est pour Marcel, et le marron, qui est un précaire, c'est pour Charles.
C'est un monde à l'envers quand même.
Je retourne vers Didier. Didier, tu as dit, moi, les EHPAD, bof. Enfin, tu n'as pas vraiment traité le problème des EHPAD. Et il se trouve qu'il y a un lobby pro-EHPAD qui est en train de protéger tout ça. Il a dit, on a apprécié votre discours qui ne met pas en danger l'industrie de l'EHPAD qui finalement s'occupe de nos personnes, des personnes les plus fragiles de la France. Et ça nous touche.
Ce n'est pas pour les maltraitants, attention.
Oui, mais nous non plus. Très franchement, nous ne voulons plus. Et nous vous proposons de généreuses donations pour votre prochain meeting si vous êtes en fait le candidat qui va laisser les choses en place pour les EHPAD.
Alors écoutez, c'est très généreux de proposer évidemment de m'offrir un peu d'argent pour mes meetings, mais je n'ai pas besoin de votre argent. Prenez cet argent. Offrez-les à des associations de sauvegarde du climat et de l'environnement. Vous ferez une bien meilleure action que de m'aider dans mon programme. Mon programme parlera de lui-même. Il n'a pas besoin d'argent pour se réaliser.
Merci beaucoup. Je voudrais, avant les résultats du dernier débat, je vais vous donner un petit point. D'après nos calculs, Charles est à 14 fois 500 000 voix. Donc 7 millions de Français vont voter pour lui. Marcel est à 13 fois 500 000 voix.
Je suis à 15.
Voilà, 13 pour Didier Vert à 18 et Véronique à 10. 5 millions de Français et toi, 9 millions.
France la Hesse.
Mais quels sont les résultats du dernier débat ? Je vous écoute, la régie, donnez-nous les résultats. Alors, il y a en premier, c'est au coup d'accord, mais Didier domine encore une fois de plus. Donc Didier gagne ses 5 voix.
Vol du siècle.
Il le dit. Et moi, je remercie...
Charles de Spy, oui. Gagne également 3 voix.
Ça, c'est la communauté From Software, c'est les joueurs d'Elden Ring. C'est Tryhard qui a voté pour moi. C'est des vrais gamers, bien sûr. C'est pas les gens qui summonent, bien sûr.
Vrais gamers qui ont roulade tapée.
Voici venu le grand, grand débat du soir.
Oh.
Dans lequel 10 voix vont être mises en jeu. C'est-à-dire que là, tout peut se jouer, comme dit Rothenberg. Tout est possible dans Top Chef. Donc tout est possible, tout peut changer. Et c'est le débat sur la diplomatie extérieure, l'armée, évidemment, l'Ukraine. Notre débat sur l'actualité internationale, sur la guerre en Ukraine. Si vous êtes élu président de la République en avril, vous serez aussi chef des armées. Avec des choix à faire, Jules Dequisse.
Oui, d'autant plus que jusqu'au 1er juillet prochain, la France tient la présidence de l'Union européenne, donc votre voix comptera. L'un de vous sera élu alors qu'il y a cette guerre en Europe. Cette invasion russe en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, on en est au 28e jour de guerre qui génère un drame humanitaire, de lourdes pertes parmi les civils. Des territoires au nord, au sud-est et à l'est ont été pris par les forces russes. Les chars russes qui ne sont pas entrés dans la capitale Kiev néanmoins, l'armée ukrainienne résiste. C'est depuis Kiev, tout à l'heure, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné un discours devant le Parlement français, devant les députés, les sénateurs, en visioconférence. On va l'écouter. Il demande des choses aux Français. Bon, on va écouter, on entendra surtout sa traductrice.
Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie, libre et diverse. Nous attendons de la France, de votre leadership, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On peut le faire ensemble. Nous avons besoin d'aide, encore plus d'aide, plus de soutien, Pour que la liberté ne perde pas, elle doit être bien armée. Les chars, les armes anti-chars, les avions de combat, la défense aérienne, vous pouvez nous aider. Nous en avons besoin, vous pouvez. Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur.
Donc le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'était tout à l'heure vers 15h devant le Parlement français. La France qui envoie déjà du matériel militaire, gilets pare-balles, missiles anti-chars, notamment ce que l'Ukraine demande également mais n'obtient pas, c'est la fermeture du ciel ukrainien par l'OTAN, que les Occidentaux empêchent les avions russes de voler, qu'ils ne puissent plus bombarder notamment des zones civiles. Mais comme l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, elle ne peut pas faire valoir l'article 5 de ce traité qui générerait une défense quasi automatique. L'OTAN qui ne veut pas franchir cette ligne rouge d'affrontement direct avec les Russes, avec le risque d'une escalade sur fond de menaces nucléaires.
Alors, nous sommes quel jour ? Nous sommes le 23, c'est ça ?
Oui, 23
mars. Nous sommes le 23 mars 2022 et il est 22h32. Sachant qu'à 22h, normalement, Renault, entreprise française, s'est exprimée sur le fait qu'elle continue ou pas ses activités en Russie. Nous ne le savons pas. Mais sachez que c'est une actualité
Alors,
qui date
d'une demi-heure. Alors, attends, je vais t'apporter une... c'est ça que tu allais parler de Renault, parce que justement, Renault vient d'annoncer... j'allais y venir après, mais vient d'annoncer qu'il stoppait la production de son usine Moscovite.
Oui.
Et Renault détient également près de 70%, 69% d'un groupe automobile russe, celui qui est la marque Lada, c'est très important, le groupe Avtovaz, et ils disent qu'ils vont étudier les possibilités quant à cet actionnariat.
D'accord. Donc, non, mais néanmoins...
C'est, évaluer les options
déjà,
possibles.
Ça vous montre à quel point l'émission est ancrée dans le réel, puisque ça date d'il y a une demi-heure. Et vous, président, est-ce que vous obligeriez d'une façon ou d'une autre les entreprises françaises à cesser d'investir en Russie et à mettre une pression économique de cette façon en Russie? En avez-vous le pouvoir, ou si vous voulez vous faire voter ce pouvoir et l'exécuter ensuite? Ou est-ce que plutôt vous êtes pour une liberté des entreprises à faire des choix moraux? Et en fait, en tout cas, en deux mots, que feriez-vous pour mettre une pression économique sur la Russie? Et oui, je vous écoute.
Oui, non, je vais rajouter quelque chose parce qu'on ne passera pas le petit son après. Du coup, j'imagine on ira directement. Voilà, oui. j'ai compris ce que tu voulait faire. En fait, Volodymyr Zelensky, tout à l'heure devant le Parlement, il a dit très clairement, les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Il a demandé à ce que les parlementaires puissent agir à ce niveau-là, en citant Renault, Leroy Merlin notamment, Auchan. Et ça a eu des effets, puisqu'on a parlé de Renault qui ce soir a pris des décisions. Leroy Merlin aussi, par sa maison mère, le groupe ADO, a réagi ce soir en disant que eux, eh bien, ils allaient pas fermer leur activité. Oui. En Russie, parce que ça serait considéré comme une faillite préméditée qui ouvrirait la voie à une expropriation qui renforcerait finalement les moyens de la Russie. Mais ils rappellent qu'ils ont arrêté les investissements. Total aussi, ce matin, c'était avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky, a annoncé couper les importations de pétrole russe. Mais c'est qu'une petite part des importations par rapport au gaz. Et Total qui dit, moi je continue à faire importer du gaz de Russie, puisque les Européens, d'une part, on en a besoin, et qu'on ne me l'interdit pas de le faire. Et que même, au contraire, on me demande de continuer. Donc, voilà, il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui. L'État français n'interdit pas et n'ordonne pas aux entreprises de cesser leur activité.
Je te remercie de m'avoir accompagné, parce qu'il y a eu un petit truc, mais voilà. En tout cas, Jules Dequisse assure. Donc, vous avez compris ma question. Doit-on se donner les moyens en tant qu'État d'intervenir sur les entreprises pour faire pression sur la Russie? Est-ce que... Tiens, Marcel, voilà, vous me regardez. Évidemment, me doute de ce que vous allez dire, mais allez-y.
Écoutez, c'est un cas d'école. Mais c'est un cas d'école. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que rentre en confrontation, en opposition, la moralité des entreprises et des questions de politique générale qui se posent à l'échelle d'un État. Donc, quel est le problème ? Le problème, c'est que nous avons des entreprises qui continuent ou continuaient jusqu'à il y a peu de faire du commerce en Russie, et nous étions là à les contempler, esclaves de ce que désiraient finalement en faire des productivistes, des capitalistes dont la seule boussole, c'est l'argent. Donc, moi, je vais vous répondre, la solution est simple. Est-ce qu'il faut mettre en place une no-fly zone, une zone d'interdiction, d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine? Bien sûr que non, ça entraînerait la France dans un conflit à l'égard de la Russie. Je crois que personne ne veut d'une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il faut laisser les Ukrainiens être bombardés sans rien faire par les Russes? Bien sûr que non, nous ne pouvons pas accepter les souffrances d'un peuple. Donc, il faut frapper la Russie durement, avec toutes les sanctions économiques possibles. Donc, bien sûr, Bien sûr, l'État doit immédiatement se prononcer comme il le peut, avec, si nécessaire, des sanctions exemplaires à l'égard des entreprises françaises qui continuent de faire du commerce en Russie. Immédiatement, cela aurait dû être fait dès les premières heures du conflit, ça n'est pas le cas. Et enfin, je ne vous ai pas entendu, monsieur Fibretic, poser la question pourtant essentielle, mais sans doute était-elle sous-entendue, la question essentielle de l'importation de gaz, parce que c'est finalement la mère de toutes les batailles. Tant que nous continuons d'importer du gaz de Russie, nous continuons de financer l'effort de guerre russe. Alors oui, moi j'assume, nous coupons toute importation de gaz russe pour la France et nous militons pour que cette interdiction, cet arrêt des importations soit à l'échelle de l'Union européenne. Et oui,
vous avez perdu votre admiration par Russie, monsieur Courret.
Il va y avoir
camarade,
mais vous pouvez continuer.
Alors justement, ça tombe bien.
Vous pouvez continuer de dénigrer. Je vais juste finir. Vous pouvez continuer de dénigrer, mais, non, mais vous n'avez pas entendu ce que je disais.
Vous avez bien parlé, Marcel.
C'est en un mot, nous coupons toute vous m'avez fait déraper. Nous coupons toute importation de gaz immédiatement pour toute l'Union européenne.
Les mots ont autant d'inflation que le rouble en ce moment. Je vous écoute, Véronique.
Oui, enfin, moi, je trouve ça très sympathique. Tout d'un coup, on a un parti qui était en admiration totale vis-à-vis de toutes les plus grandes démocraties du monde. Cuba, Venezuela,
c'est de la
Russie,
rumeur, c'est de la calomnie.
La Chine.
C'est de la calomnie.
Peut-être que vous n'avez aucune admiration pour Staline et
vous m'avez entendu.
Peut-être que ce ne sont pas vos camarades.
Ce ne le sont pas, non. Vous m'avez entendu, mais moi, vous pouvez continuer de vous inventer un adversaire, madame.
Véronique,
on essaye de laver plus blanc que blanc. Il y a la réalité et il y a le sérieux dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que, certes, effectivement, nous mettons des sanctions dures sur la Russie et il faut le faire parce que nous ne pouvons pas intervenir en Ukraine sans déclencher un conflit qui serait, in fine, un conflit mondial. Donc, nous mettons des sanctions progressive, il faut le faire. Est-ce qu'il faut sortir les entreprises de Russie et se couper du gaz ? Alors comment les Français vont se chauffer ? Comment les Français vont se chauffer
donc
cet vous, hiver ?
La réponse, c'est on laisse les entreprises...
Peut-être qu'avec des pulls qui grattent, ça fonctionnerait mieux.
La réponse, c'est on laisse les Ukrainiens se faire massacrer.
La réponse, c'est que nous envoyons, des armes et tout ça. Et c'est classé, évidemment, secret défense, mais qu'il nous faut effectivement du gaz pour pouvoir continuer à soutenir notre économie, parce que notre économie va être en difficulté. Et si, comme la France est le seul État à soutenir et à être en capacité de soutenir un effort de guerre conséquent au sein de ce continent... Nous ne pouvons pas, malheureusement, et
Madame
nous le
Solette,
regrettons.
Solette, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut séparer l'homme des ressources, j'ai envie de dire.
C'est un discours de responsabilité. Si nous voulons pouvoir maintenir cet effort, il nous faut avoir des intrants. Ce n'est pas facile de jouer ce rôle-là.
Les Ukrainiens seront bombardés, mais les Français auront bien chaud.
Alors, je vous... Oui,
Jules. Notamment par rapport aux entreprises, parce que M. Courret disait que ce qu'il les guidait, c'était uniquement le profit. Il y a quand même beaucoup d'entreprises de multinationales qui ont annoncé suspendre leur activité en Russie.
Oui,
au moins 400, il y a un décompte de l'université de Yale. Il y a McDonald's, LVMH, Airbnb et puis Activision Blizzard, Netflix, Deezer aussi. Enfin,
c'est un bon début.
Ils peuvent plus jouer à Diablo. Charles ?
Oui. La situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. Et je fais partie des entreprises qui n'ont pas coupé leurs services en Russie, puisque je pense qu'il faut aussi penser au peuple russe. D'un côté, on a un gouvernement qui a deux doigts de proposer un numéro vert, voilà, ou un France-Russie, je ne sais pas. Ici, j'ai un parti qui essaye de se détacher de son histoire, mais encore une fois, et pour vous, M. Courret, spécialement pour vous, vous savez maintenant ce que c'est qu'un État communiste. C'est un État qui se barre en vrille à cause de la faille humaine, c'est un État qui devient sauvagement capitaliste, et c'est un État qui sombre ensuite dans l'interdiction.
Un adversaire.
Alors, j'ai envie d'avoir deux points importants. Le premier, il est radical. Il faut tuer Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est la guerre d'un homme.
Mais vous appelez au meurtre
Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Twitch, c'est une parodie. Hein. C'est,
alors justement, j'appelle à sauver les Russes et les Ukrainiens. Il y a des jeunes militaires russes perdus. Il y a des civils russes qui vont vivre une vie en enfer et des générations perdues comme ça, qui n'ont pas demandé la guerre. Il y a des Ukrainiens qui meurent directement. Et il y a en fait un homme et un cercle de proches qui sont coupés du monde, qui ont eu trop de pouvoir, trop de communisme, puis trop de capitalisme qui sont dans
donc, exactement comme vous.
Mon premier point est effectivement radical, mais vous savez, je suis radical.
Il faut décapiter Vladimir Poutine. C'est un milliardaire, monsieur.
Excusez-moi, Charles, juste une seconde.
Mon deuxième point, oui.
Vous ne pensez pas qu'un autre Poutine prendrait la place de Poutine avec les mêmes idées ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants à Vladimir Poutine et qu'effectivement, cet homme a tenu d'une main de fer 22 ans de règne mais qu'aujourd'hui, il y a une opposition.
Visiblement,
il y a
vous n'êtes pas un de ceux-là.
Alors, je remarque simplement que M. Poutine est un milliardaire qui règne d'une main de fer sur son pays. C'est exactement ce que vous souhaitez pour la France.
Je vous écoute, Charles.
J'ai quand même un dernier point, et c'est le point américain. Voilà. Je tiens quand même à montrer que ce point avec Vladimir Poutine, on l'a déjà vu il y a 20 ans, c'était un point avec un autre dictateur d'un pays avec beaucoup de ressources qui s'appelait l'Irak. Et que, encore une fois, l'Amérique, hein, qui a fait de la France notamment son vassal via l'OTAN, eh bien, poussait encore une fois des pays en envers d'autres, rentrer en guerre au nom de la gendarmerie du monde, etc., etc., et se partager les richesses. Et l'impérialisme américain...
La France n'a pas besoin des États-Unis pour être
l'impérialisme américain est un impérialisme dangereux, mais on va dire plus subtil que l'impérialisme russe. Mais j'ai envie de dire qu'entre deux tyrans, un plus malin que l'autre, je voudrais que la France sorte de tout cela et que nous retrouvions une souveraineté à long terme.
Merci Charles. Didier.
On parle encore et toujours des oligarques et des grands de ce monde, mais est-ce qu'on a parlé du peuple russe? Savez-vous ce
J'ai parlé du peuple russe.
Le peuple russe.
Charles a parlé du peuple russe.
Je veux sauver le peuple russe.
Évidemment, comme M. Courret, je ne suis pas pour une intervention de l'OTAN. Je condamne fermement, évidemment.
Mais ça sert à quoi de condamner
Russie. C'est juste mes opinions. Je vous offre les opinions de mon parti. Je vous donnerai les solutions juste après. Je sais très bien que mon avis, Vladimir Poutine, sans contrebranche.
Vous allez leur jeter des éoliennes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller en vélo?
Mais non, écoute, justement, laissez-nous parler.
Je sais, fermez-la 5 minutes et vous donnerai ça. Je pense qu'il faut accentuer les sanctions, en effet, sur ces entreprises. Et bien que tout doit être pris au cas par cas, et on l'a très bien redit ici, beaucoup de nos entreprises hein, se sont retirées de Russie. Il faut quand même le noter, noter l'effort que ça représente et le sacrifice que ça représente. Moi-même, étant un adepte de l'autoflagellation, je sais très bien ce que ça fait. Il faut aussi que Total se retire. Miser tout sur les énergies fossiles et le gaz russe n'est pas du tout bon à la fois pour l'économie française, mais aussi pour l'économie européenne et pour le développement écologique de notre Europe et de notre pays. Donc, il faut gagner la souveraineté. J'ajoute à ça... Je pense sincèrement que le peuple russe, qui aime aussi et qui partage énormément de liens à la fois culturels et familiales avec le peuple ukrainien, sont fondamentalement opposés à cette guerre. Aujourd'hui, il existe des moyens de communication pour informer le peuple russe depuis l'extérieur afin de les aider à se soulever, à créer la révolution. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, ils ont peur. Bien sûr, le Kremlin est puissant et la répression extrêmement forte. Mais je pense que rien ne se résoudra sans une véritable révolution russe qui renversera à la fois le pouvoir en place, non pas en tuant les dictateurs comme au XVIIIe siècle, monsieur De Spy, mais tout simplement en redonnant à la Russie sa propre souveraineté au peuple.
Je vous remercie. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on manque de temps. Je vais demander d'ailleurs, par ce manque de temps, à la régie, avec titre exceptionnel, d'envoyer d'ores et déjà le sondage, alors que nous allons aborder le dernier thème avec Jules. La France et plus globalement l'Union européenne envoient des armes à l'Ukraine, soutient militairement Volodymyr Zelensky. Mais on a appris qu'on a aussi livré des armes à la Russie ces dernières années, Jules de Kiss.
Oui, c'est jusqu'en 2020 et malgré un embargo décrété par l'Union européenne, la France a continué à livrer des armes à la Russie. C'est ce qu'a révélé la semaine dernière le média en ligne d'investigation Disclose. Les journalistes ont eu accès à des documents classifiés qui révèlent que la France a profité d'une sorte de faille juridique pour livrer entre 2014 et 2020, donc il n'y a pas si longtemps, pour 152 millions d'euros de matériel militaire. Voici les précisions du spécialiste défense de France Info.
Des caméras thermiques pour un millier de chars, des systèmes de positionnement pour des chasseurs, des détecteurs infrarouges pour des hélicoptères, c'est ce que la France a vendu à la Russie, selon Disclose. Et ces matériels ont été livrés en plein embargo d'exportation d'armement vers la Russie. Mais la subtilité, c'est que ces contrats ont été conclus avant l'embargo du 1er août 2014, décrété après l'annexion de la Crimée par Moscou. Pas de rétroactivité possible. La France est donc restée dans les clous juridiques. Pourtant, Paris n'avait pas hésité à l'été 2015 a annulé le contrat de deux navires, deux porte-hélicoptères de classe Mistral, presque 2 milliards d'euros, commandés en 2010. Paris aurait donc pu annuler également les commandes des matériels évoqués par Disclose aujourd'hui, matériels déployés et utilisés par les Russes en Ukraine.
Donc des soldats russes qui utilisent hein, en ce moment en Ukraine des équipements vendus par les entreprises françaises. Ça pose plein de questions, notamment déjà celle de la vente d'armes à des pays qui ne partagent pas forcément la même vision des droits de l'homme, de la démocratie par exemple. De la transparence aussi, réclamée par beaucoup d'ONG, à qui vend-on des armes, pour combien, quand, etc. parce que notre industrie de l'armement, et ça il faut le rappeler, est très importante. 15-20 milliards d'euros, ça dépend en fonction des années, parce que parfois il y a des gros contrats, donc c'est plus, parfois il y en a moins, donc c'est moins. Mais c'est un secteur qui représente 200 000 emplois, d'après le ministère de la Défense, 4 000 entreprises dans notre pays.
Oui, on dit souvent que quand il y a des ruées vers l'or, c'est les vendeurs de pioches qui gagnent le pactole. Quand il y a une guerre, c'est les vendeurs d'armes. L'industrie de l'armement est un fleuron français. A-t-on raison de vendre, Véronique, à presque tous les pays, parfois même à des régimes qui ne partagent pas notre vision de la démocratie, des droits de l'homme, nos armes et notre technologie?
L'industrie de la défense est un pilier, effectivement, de notre économie. Sans passer, ce serait des millions de chômeurs. Est-ce que quelqu'un veut ça autour de cette table? Sans passer, ce serait aussi ne pas avoir une vraie défense au niveau français, car c'est grâce à notre industrie forte que nous avons cette défense française forte. Après, ce qui a été fait, je tiens à le rappeler, est parfaitement légal. Il n'y avait aucun élément illégal dans ce qui a été fait. Donc oui, il y a des évolutions dans certains pays, des évolutions que nous regrettons tous, mais malheureusement, c'est ainsi. Après, je crois qu'il faut éduquer à la paix, c'est très important, et c'est ce que je m'emploie à faire depuis 20 ans dans un programme, comme je disais tout à l'heure, qui me tient beaucoup à cœur avec la Fondation Dassault, qui est le programme pour la paix.
D'accord. Merci Didier, je vois que vous étiez là, vous bouillez intérieurement, je vous écoute.
On manie l'hyperbole avec sang-froid, puisque Madame Solette veut nous faire croire que l'arrêt de la vente d'armes, c'est des millions de personnes au chômage. Non, ce n'est pas des millions de personnes au chômage. Mais la croissance, vous ne raisonnez qu'en argent, vous ne raisonnez que par le biais monétaire.
Oui, ce n'est pas
parce que nous allons arrêter de fabriquer des armes que nous ne pouvons pas fabriquer autre chose et créer d'autres emplois. Arrêtez de penser que tout est ferme, définitif et statué, parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a des moyens de changer les choses, il y a des moyens d'aller vers l'avant. Très certainement pas en nationalisant absolument toutes les entreprises de France, puisque visiblement l'État vend aussi des armes, et s'il vend absolument tout, à la fois le pétrole, les transports, les armes, la nourriture, ça ne fera qu'avoir un roi qui commande absolument tout, et très certainement pas avec une intelligence artificielle qui va gérer absolument tout. L'un propose le robot, l'autre propose le bobo. J'aimerais avoir un peu plus de lucidité dans la vision
de ce
monde.
Mais vous ne proposez rien, monsieur.
Mais bien sûr que si. Je propose l'arrêt de vente d'armes et l'arrêt du commerce d'armes.
Des millions de chômeurs.
La France, et bien, je proposerai des solutions.
Voilà. Alors, quelles sont les solutions?
Ils
travailleront à la transition écologique et on créera d'autres travails pour ça. Ils vendront des éoliennes et ils vendront des centrales hydrauliques.
Vous
ils vendront des solutions de travail propre. Bien sûr,
on a compris. Charles, vous voulez réintervenir. À vous, quelle est votre idée sur l'industrie de l'armement?
L'industrie de l'armement est un mal nécessaire. Voilà, tout simplement. On vit dans un monde, évidemment, si on vit dans un monde de bisounours, et c'est le moment où je serai évidemment d'accord avec Madame Solette, c'est pas parce qu'on vend des armes qu'on aime les armes. Moi, je vends des cyber-armes. Donc, je vends des logiciels pour venir verrouiller des ordinateurs ennemis. J'ai des contrats avec la défense française, des contrats avec des États que je ne connais pas. Forcément, je sais très bien qu'en vendant des logiciels, peut-être que des groupuscules dont je ne partage pas les valeurs vont utiliser mes logiciels, etc. Évidemment, on est dans un marché qui est dégueulasse, mais nécessaire. Si on vivait dans Disneyland, comme voudrait Monsieur Vert, où tout le monde, en fait, eh bien, se vend des vélos et des transitions écologiques, ce serait magnifique.
Alors, je ne vous propose pas Disneyland. Hein. Ma vision du monde est bien plus Dark Soulesque que ça, croyez-moi.
Hein. On se tiendrait la main, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde avec des Vladimir Poutine. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde avec des dictateurs. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde aussi avec des gouvernements américains qui font et défont des gouvernements, qui arment et qui désarment des opposants. Je vous rappelle qu'encore une fois, la France, peut-être qu'elle a vendu des armes aussi, encore la Russie. Je vous rappelle que les États-Unis s'amusaient à vendre des armes à l'Iran pour ensuite trahir l'Iran parce qu'ils vendaient aussi des armes à l'Irak en secret. Encore une fois, ce sont des marchés de dupes. Mais effectivement, je suis d'accord sur ce point avec Madame Solette, ce sont des marchés nécessaires. Lorsqu'on vivra dans un monde de bisounours, je serai ravi de transformer tous les vendeurs d'armes et tous les fabricants d'armes en fabriquant de micro-fûts de bière.
Si on ne commence
Merci,
pas par quelque part.
On retrouve des points communs quand même. Et enfin, Marcel.
J'ai une question simple à adresser à Monsieur Spi et à Madame Solette.
De Spi.
Combien? Non, si vous n'étiez pas... Vous sauriez qu'on dit Monsieur Spi. J'ai une question. Combien vaut notre intégrité à nous, peuple de France? Combien valent les vies ukrainiennes qui, aujourd'hui, sont assassinées avec nos armes, qui sortent de nos usines? Moi, j'apporte ma réponse. Notre intégrité et les vies ukrainiennes sont inestimables. Donc oui, j'assume.
Nous allons perdre peut-être un demi-point de croissance, un point de croissance, en n'allant pas fabriquer des armes pour tous les dictateurs du monde. Non, ça ne fera pas des millions de chômeurs. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va investir pour réarmer l'armée française, qui aujourd'hui est à l'os, tout le monde le sait, il serait temps de reconquérir notre grandeur militaire, parce que c'est important pour un pays. Maintenant, il s'est produit un moment de grâce autour de cette table, c'est que Monsieur Vert, de qui je suis relativement proche, même si, encore une fois, il ne fait pas la moitié du chemin, a enfin compris de quoi je parlais. Il disait, mais alors, un pays dans lequel l'État gérerait les hôpitaux, l'école, la recherche, mais également vendrait des armes, mais également vendrait de l'énergie, ce serait un État où il y aurait un roi. Mais oui, monsieur. Mais enfin, nous nous comprenons, mais ce roi, il porte un nom, monsieur Fibre-Tigre. Ça s'appelle le peuple de France. En effet, je propose la véritable souveraineté populaire. Qui mieux que les Français rassemblés pour gérer ce bien commun, cette chose commune qu'est notre industrie de l'armement. Je fais une dernière précision. Pour que tout le monde me comprenne bien, les hôpitaux, ils pourraient être privés. Ça pourrait être des entreprises. C'est la France qui les gère. Les écoles, elles pourraient être privées. Ça pourrait être des entreprises. C'est la France qui les gère. Pareil pour les prisons. Eh bien, ce que je propose, c'est simplement de généraliser ça et que le peuple français gère, en plus des hôpitaux, des écoles et de la recherche, gère également son industrie de l'armement. Gère également son industrie de l'alimentation. Merci. Ça fera d'ailleurs moins de souffrance animale.
Monsieur Couré, même à l'échelle d'un kibboutz, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec tous les exemples de pays ultra-communistes qui ont tenté le coup,
regardez l'école française, elle marche très bien.
Oh là là, il ne nous reste plus de temps. Je vais demander à la régie de nous afficher les résultats. Même si c'est des résultats intermédiaires, on va les prendre comme définitifs.
Aha !
Alors, Charles de Spy,
une France qui s'éveille.
9 voix que je lui donne. Oh. Et.
Je tiens à dire qu'il y a 500 000 personnes qui se sont éparpillées dans le desk, mais je ne les laisserai pas partir.
Didier Vert.
Je vois Jules qui essaie de voler des voix.
Mais je t'en enlève 2. Pour la raison suivante, c'est que j'avais oublié de t'en enlever une au dernier débat. Et personne n'a évoqué le fait que tu avais eu cette aventure malheureuse, ta casserole. Mais toi, tu l'as évoqué. Bizarrement.
Car je suis quelqu'un d'honnête.
Très bien.
Et moi, je l'ai évoqué pendant le débat sur le féminisme. Hein.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai noté.
J'ai perdu 2 points.
Alors, c'est le moment du grand décompte. Je vais vous demander de compter vos voix parce que c'est la fin du premier tour. Les Français vont dans les urnes. Combien avez-vous de voix? Moi, j'ai des évaluations de mon côté, mais vérifier que vous ne trichez pas.
Avec un algorithme, ça va aller très très vite, hein, tu sais.
Alors, Didier,
25.
Véronique.
Ah, moi, j'ai compté 1 million, parce que j'aime les franchises. 8,5 millions. C'était 500 000, 1 point.
Donc,
hein.
16, c'est ça?
Ouais.
17, 8 millions de
17, et okay. Toi, tu as 25. 17, 25. Charles?
27.
27?
Encore une fois, je savais très bien ce qui se passerait. Les gens, petit à petit...
Et Marcel, voilà.
14.
14.
Et moi, j'ai 11. Je suis fatiguée.
11. Donc, vous êtes au deuxième tour. Oui, 27. Enfin, vous passez.
C'est génial. Pour le gagnant. Et...
Non, mais au débat
et 3 moins 2 parce qu'il a. Mais bon, 4 moins 2. Et au deuxième tour, sont élus Charles de Spy, sont désignés par les Français Charles de Spy et Didier Vert. Vous avez la possibilité, librement, de faire des alliances si vous voulez un poste de Premier ministre ou un poste de ministre avec qui vous voulez pour faire passer votre candidat, sachant que le candidat viendra le 14 avril prochain se disputer la finale avec les autres. Je vous laisse
le 13 avril,
des alliances ou pas, nous?
Oui. Alors vous pouvez proposer des alliances en échange de poste ou d'autres choses, n'hésitez pas, et sachant que historiquement Clément n'a jamais fait d'alliance. Je vous écoute.
Il n'y a jamais eu d'alliance tout court.
Alors,
Je crois qu'il n'y a jamais eu d'alliance.
Si, il y a eu à un moment.
Mais je pense qu'il va y avoir une alliance ce soir. Ce serait moi le premier.
Valéry Gagnon avait donné des voix à la Gaule Zitouni, je crois. Mais, non, pas la Gaule Zitouni.
D'ailleurs, monsieur la Gaule Zitouni qui m'a donné son soutien ce soir.
Alors,
je tiens à dire. Voilà.
Dites-moi, Didier. Vous n'allez pas gagner le deuxième tour si les choses avancent comme ça. Est-ce que vous voulez faire une proposition à Marcel Couret?
Bien sûr, je veux faire une proposition à Marcel Couret. Je ne sais pas si...
Ou à votre...
Plutôt à Marcel Couret. Je vois que nous nous rejoignons sur beaucoup de nos idées. Bien sûr, je trouve vos points de vue peut-être un peu trop radicaux. Et vous avez probablement raison sur les termes. Les miens le sont aussi pour les questions écologiques. Je vous propose de nous allier au moins pour eh bien, les questions qui nous rassemblent un peu tous les deux, à savoir faire payer le patronat, taxer plus et donner une France plus égalitaire pour tous. Vous êtes évidemment en droit de vous exprimer et je tiens déjà à vous annoncer que je n'ai rien à vous proposer en échange. Absolument rien.
En fait, vous êtes Grenoble, vous allez en chier. Quoi,
si
voilà.
Vous avez lu mon programme, en tant que président, je ne serai pas le gouvernant évidemment total de la République française, mais la gouvernance sera elle aussi donnée à tous les Français et à tous les votants.
Acceptez-vous cette proposition étrange?
Est-ce que j'ai le droit d'attendre
ouais. Oui,
d'attendre de voir ce qui se passe dans les alliances.
Alors
déjà, je suis le seul candidat qui a trouvé des points d'entente avec certains de mes adversaires, déjà. Et notamment, avec M. Courret, nous avons trouvé à très long terme la fin du travail. Effectivement, c'est là où parfois le progrès et le communisme peuvent se rejoindre. Et encore une fois, M. Courret, je ne suis pas d'accord avec vous sur plein de points et on n'a pas besoin de les redire. Mais à la fin du travail est enfin réalisable. Elle est à portée de main et c'est moi qui pourrais vous l'apporter. La fin du travail n'était pas possible parce que la technologie n'était pas disponible. Voilà.
Et après, je vous propose un poste de ministre du Travail.
Je vous proposerai un poste de... Non, parce que dans mon programme, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais le service public allait être extrêmement revalorisé. C'est-à-dire qu'il y avait une revalorisation des salaires, une limitation des salaires aussi pour les plus hautes fonctions publiques, une limitation du pantouflage, une transparence totale et un battle pass politique qui fait que, évidemment, vous pourriez gagner ou perdre des levels selon vos bonnes actions. Et là-dessus, je pense que la fermeté de M. Courret pourrait effectivement être la bienvenue pour gérer ce remaniement du service public.
Citoyenneté à point.
Pour vous, Mme Solette, vous savez que nous sommes... proche sur plein de points. D'ailleurs, je crois que c'est ma société qui gère vos numéros verts. Donc, bon, bref. Sur plein de points, Madame Solette, nous sommes tous les deux des réalistes. Vous êtes une réaliste traditionnelle, je suis un réaliste radical. Mais nous sommes réalistes. C'est-à-dire que vous savez très bien que l'homme à côté de vous, il pense que faire du vélo toute la journée va sauver la planète.
Arrêtez de caricaturer, s'il vous plaît.
Il faut des entreprises. Il faut de la richesse, il faut de la discipline, il faut de l'armement. Ce ne sont pas des choses joyeuses, mais des choses réalistes. Cet homme vit dans Disneyland, même s'il n'aime pas Disneyland.
Je vous écoute.
Je suis radical, mais pas si
voulez-vous faire un appel à vos électeurs pour un candidat ou un autre?
Juste un tout dernier point.
Oui, vas-y.
Est-ce que vous voulez vraiment avoir un deuxième tour avec deux personnes molles de gauche ou pas? Ou est-ce que vous voulez avoir un vrai deuxième tour qui représenterait différentes Frances, c'est-à-dire la Macronie, la gauche et la disruption royale?
Je vous écoute, Véronique et Barcel.
Oui, moi, évidemment, avec les Khmer verts, ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas non plus envie de choisir entre Khmer verts et puis les nostalgiques de la royauté. J'entends bien vos propositions. J'aurais aimé pouvoir travailler avec vous. Notamment, j'avais un beau projet France Jeune Crypto pour les 18 ans. J'ai mon bac, j'ai mes cryptos. Je trouvais ça assez intéressant. Mais malheureusement, vos méthodes, c'est vos méthodes du passé. Et donc non, c'est impossible pour nous, malheureusement.
Véronique s'est exprimée. Marcel.
Je suis très flatté d'être ainsi dragué par chacun des candidats. Bon, écoutez, monsieur, vous me dites qu'on a des points communs. Enfin, vous voulez rétablir le roi, je veux rétablir le peuple. Donc, il me semble que nous avons ici un point de désaccord également.
Le roi ne sera pas humain, monsieur.
Quant à monsieur Vert, c'est vrai que nous avons une partie des idées en commun. Mais je crois, moi, qu'il n'est vert précisément que par son nom et que derrière ces grands appels de bon sens, eh bien, se cache en réalité une impuissance qui est celle finalement de l'homme face au système capitaliste dont il ne veut pas sortir. Et sens, je ne peux pas le rejoindre.
Très bien. Eh bien, c'est au deuxième tour, par 1 million de voix, que Charles Despy gagne et devient le nouveau président de la République française.
J'entends le deuxième tour.
Quoi? Oui, on va voir. Non, mais en fait, en tout cas...
J'y croyais pas.
virtuellement, si c'était juste cette partie, voilà, la France serait dirigée par une IA. Je n'y croyais pas du tout non plus, c'est extraordinaire. Félicitations. Vous pouvez, le chat, poser des questions et je vais les prendre et je vais les... alors, pas par Twitter, par le chat, ce sera plus simple parce que Twitter ne marche pas très bien sur mon téléphone. Et je vais en profiter, avant que vous posiez des questions, de remercier les techniciens de France Info dont je n'avais pas le nom, Camille, Hélène, Arthur, Joé et Sylvain. Bravo pour votre travail.
Est-ce qu'on peut dire un mot également?
Vas-y,
pour
dis un mot.
Une des gens qui travaillent au succès de cette émission et qu'on n'a pas encore remercié, mais qui sont importants, qui sont les modérateurs de la chaîne.
Tout à fait.
Les modérateurs de la chaîne, dont Florent, qui est ici en studio, et puis évidemment Ecladus Gandalf et notre ami Lianis, qui sont sur le chat.
Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Ou sinon, ça vous a plu? Ça t'a plu, Aurore?
Non, moi, ça m'a plu. Après, je vais pas mentir que le côté députée européenne sur la Russie, quand je dis l'inverse de ce que je pense vraiment...
C'est dur.
C'est dur.
On a vu que des fois, tu serrais la mâchoire.
Non, mais en plus, tu jouais pas pour gagner. Hein. Tu jouais vraiment pour simuler le macronisme.
Oui. Non, je jouais pas pour...
Je jouais pour gagner, justement.
Non, je trouve que tu simulais plus le macronisme que pour gagner. Mais parce
c'est,
que...
Moi, c'est un petit peu ça.
Il y a un petit côté parodie macroniste.
C'est qu'on perd, apparemment, dans le jeu quand on fait...
Oui, c'est ça.
Quand on fait de la macronie, alors que dans...
Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Dans la vraie vie, ça a plutôt tendance à jouer à la win.
D'ailleurs, question de Björkant, est-ce qu'il y a des propositions que tu as faites ce soir qui rejoignent un peu tes propositions dans la vie réelle?
Absolument pas.
Aucune, voilà. Aucune. Comme vous le savez.
Moi, je voulais, parce que bon, dans mon métier, je parle quand même beaucoup d'élus, etc. Et j'imagine la difficulté du rôle de composition. Ouais. Surtout qu'en plus, tu sais que t'es filmé, t'as une expression publique qui est pas celle de tes valeurs, de tes idées, surtout. Moi, ça m'a impressionné.
Elle est pas streameuse comme nous, surtout, encore une fois.
Non, moi, je pensais pas que t'irais à fond comme ça. Que tu jouerais ton rôle de composition pour être en cohérence avec l'ADN fictif que t'avais, quoi.
D'accord. Question de.
J'imagine que c'était pas facile pendant que tu le disais.
Juste sur le reste, ça allait.
Ouais.
Parce qu'en plus, c'est des EDL qu'on est habitué à avoir en plateau télé, etc. Sur l'Ukraine, j'avoue que.
C'est dur.
Moi qui suis pour justement l'arrêt des importations gaz, etc., depuis le début, c'était pas simple. Mais bon, c'est bien aussi de comparer notre personnage.
J'ai répondu bon alors.
Merci Aurore de ta présence. Question pour Ken de Taurine. Est-ce qu'il y a des propositions que tu as dit aujourd'hui qui rejoignent tes propositions politiques, tes convictions politiques personnelles?
Oui, alors après, est-ce que j'ai vraiment des convictions politiques personnelles? Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, tous les Français, tous les Européens ont besoin de faire des efforts pour mieux vivre plus tard. Maintenant, j'ai pas la réponse à tout et je ne suis absolument pas un analyste politique.
Positif, oui.
Positif, non. Non, c'est vrai que dans la vie, je suis plutôt pessimiste comme gars. Et en ça, demain c'est déjà trop tard. Ouais.
Je crois que tu allais faire plus le collapsologue d'ailleurs au début. Je pense que tu allais plus être collapsologue là-dessus que.
Le chat t'envoie beaucoup de cœurs. Donc s'ils veulent te suivre pour t'envoyer encore plus de cœurs sur Twitter, c'est quoi ton compte Aurore?
C'est Aurore la Luc, je crois.
LALUCQ.
CQ, basque.
Voilà, exactement. CQ. Exactement. Est-ce que tu aimes vraiment la flagellation de demande Twitch?
Je dois vraiment répondre à ça.
T'es pas obligé.
Je fais des 200 km à vélo et quand je termine, j'ai les genoux en feu et le cul, je t'en parle même.
Et on t'a vu de temps en temps énervé.
J'aime ça, de ouf.
On t'a vu de temps en temps énervé, nous dit le chat. Et est-ce que parce que tu étais vraiment énervé sur quand on a entendu le reportage sur le racisme qui était affreux?
Ah ouais, c'était.
Tu fais super bien.
Ouais.
Mais non, mais ça m'énerve vraiment.
Oui, mais je pense qu'on était tous. L'ensemble du personnage, tu le fais bien. Ouais. Sur les temps.
Après, j'avais un peu le beau rôle. Il y a vraiment des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, c'est-à-dire.
J'ai vraiment coupé des tas de choses parce que vos débats étaient intéressants et on n'a pas pu parler autant de l'Ukraine qu'on pouvait. Sachez aussi, je vous donne un peu les coulisses, que c'est un débat. Est-ce qu'on parle de l'Ukraine? Voilà. Mais une fois de plus, je trouve que, à part l'appel à la mort de Poutine, était un petit peu.
On peut en parler après. Mais...
J'ai un peu.
T'as fait gloops.
En fait, après. Bon, la question, c'est est-ce que je jouais mon perso, qui est un mec donc, qui est solutionniste, et pour qui il y a un problème, c'est un homme, et donc quand t'es solutionniste, quand t'as un marteau, tout devient un clou. Donc le problème, c'est Poutine. Si on tue le problème, il n'y a plus de problème. J'ai essayé de le jouer aussi. Après, il y a des gens qui ont cet argument de dire c'est la guerre d'un homme. C'est pas la guerre d'un pays entier. Si on ne retire que l'homme, on sauve aussi des virus. Donc
j'ai même eu des prises de position publiques, oui. Bon, certes minoritaires, mais là-dessus. Et en tout cas, moi, je te ferai jamais ce procès. C'est que justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans ce format-là, qui est dans le monde fictif, il y a des déclarations qui sortent, qui pourraient sortir demain, et on ne serait pas surpris de la bouche de certaines personnes.
Ouais. C'est vrai.
En fait, on était dans des ellipses, mais pas si folles que ça. Quoi. Je pensais que ça allait plus partir dans la boîte de fuck, et en fait, j'ai dit, je pourrais l'entendre.
Ouais, mais bien sûr.
D'accord, bah, y a des petites questions, mais vous verrez. Enfin, vous pouvez les poser. Vous pouvez poser les questions directement à Lamua, Ken Bogart,
Clément Victor.
Non, mais quelle est la fortune de Charles de Spy, ça
j'avais tout un storytelling complètement sur.
Normalement, voilà, j'étais le plus pauvre de tous les candidats.
Oui, tu viens d'une association, mais bon, c'est pas.
J'étais plus pauvre, même Marcel Courrèges possédait des biens dans le 16e arrondissement incroyable.
Moi, j'ai une question personnelle. Grenoble. Le mois d'enseigne. Comment tu es un spécialiste de Grenoble, toi ?
Bon, tu veux que je révèle toute ma vie ? ma femme a fait toutes ses études à Grenoble.
Ah, d'accord.
Voilà, okay. Donc j'ai visité pas mal la ville, donc je connais assez bien Grenoble. Et pour tout ce qui est ces histoires d'enneigement, c'est juste des articles comme ça que je lis.
D'accord.
C'est la vérité, hein, d'ailleurs, en 30 ans,
merci
on a bien perdu un mois d'enneigement.
Tous d'être venus. Merci, Aurore, d'être venue en dépit de l'actualité et de tes nombreuses préoccupations. Tu nous as accordé beaucoup de temps.
Ah, mais non, c'était un vrai plaisir.
Merci France Info. Merci Jules Dequisse aussi pour ton travail. Comment s'appelle ta stagiaire?
Marie Vrobel.
Marie qui a bossé un petit peu sur les casseroles.
Voilà, oui, qui sont toutes elle a proposé quatre casseroles, dont deux sont sorties.
Voilà.
Celle du pastis.
Ça doit être un truc d'écrire des casseroles. C'est autre chose qu'écrire des nécros quand même. Ça doit être plutôt drôle comme service.
Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, exactement.
Ça balance. Philippe de Villiers chez Pascal Pro.
Et la PMA, c'est
Laurent Wauquiez.
Le choc des titans.
Très bien. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous
le 13 avril.
Le 13 avril, entre les deux tours. Pour la grande finale qui donc opposera l'âme,
angle
droit et Clément qui sera le président, la présidente de la République française. Merci à tous, au revoir.
Ciao.
Ciao.
Quelle élite.